Il est 9h30 à Paris, merci d'écouter RFI, 8h30 à Yaoundé. Un nouveau journal avec vous, Victor Moria.
Merci Gaëtan Plené. Un retour remarqué au Cameroun, près de 2 mois après sa dernière apparition publique. Et alors que les rumeurs sur son état de santé se multipliaient, Paul Biya, 91 ans, est arrivé hier soir à Yaoundé. Il est retourné dans son palais présidentiel, accompagné par les cris de joie de ses partisans. La première réunion des BRICS élargie se tient à partir d'aujourd'hui à Kazan, en Russie. L'Éthiopie et l'Égypte font notamment leur entrée à la table des discussions. Et puis des milliers de Touaregs maliens expulsés du sud de l'Algérie, les soutiens à une candidature à la présidentielle de Mamadi Doumbouya se multiplient en Guinée et la journée de la liberté de la presse au Burkina Faso dans un contexte particulièrement difficile pour les journalistes. Après 7 semaines hors de son pays, le Cameroun, et 2 absences remarquées à New York fin septembre et en France début octobre, avec surtout de multiples rumeurs sur son état de santé, le président Paul Biya, 91 ans, a atterri à Yaoundé hier soir par un vol parti de Genève. À l'aéroport, il a été accueilli par ses proches collaborateurs et des plusieurs milliers de militants de son parti, le RDPC, l'ont acclamé sur le chemin menant au Palais de l'Unité. Richard Onanena à Yaoundé.
Madeleine, 31 ans, et sa camarade ont passé plus de 5 heures de temps au rond-point Bastos, à environ 2 km du palais présidentiel de la République, pour apercevoir furtivement la voiture du chef de l'État. La centaine de militants agglutinés ici, comme des dizaines d'autres sur l'itinéraire du président, est venu de la Lékié, un département voisin de Yaoundé, pour être témoin, comme le disaient certains, je cite, du retour du fantôme. Simon-Pierre Edima, maire de la ville d'Oubala.
Le chef de l'État est d'abord un homme qui peut tomber malade, comme tout autre homme. Mais de là à penser que le chef de l'État est indisponible et incapable de continuer à gérer le Cameroun, nous n'avions pas cette impression-là.
Paul Biya regagne ainsi le Cameroun plus d'un mois après sa dernière apparition publique. Une absence qui avait alimenté des rumeurs sur son état de santé. Après son retour très attendu, certains militants appellent le président à être candidat.
Nous souhaitons de nouveau qu'il se représente. C'est à lui de décider, il a le dernier mot.
Âgé de 91 ans, Paul Biya est à la tête du Cameroun depuis 1982, soit 42 ans. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
Ils étaient 5. Depuis des années, ils se retrouvent pour la première fois à 10. Le premier sommet des BRICS Plus s'ouvre ce mardi à Kazan, en Russie. En plus des 5 membres habituels, le Brésil, la Chine, l'Inde, la Russie et l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, l'Égypte, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis se joignent à la table de cette alliance économique, pensée comme une alternative à l'hégémonie occidentale, mais qui dit nouvelle alliance, dit aussi compromis, surtout face aux nombreux différents politiques qui opposent les nouveaux pays membres. Walid Diallo.
C'est une alliance de pays qui ont pourtant bien du mal à s'entendre. Les nouveaux arrivants africains, l'Égypte et l'Éthiopie se disputent le contrôle du Nil. En mer Rouge, les attaques des Houthis bloquent l'accès du canal de Suez, ce qui déstabilise l'Égypte et le trafic commercial chinois. Or, les Houthis sont financés et soutenus par l'Iran, désormais membre des BRICS. Aussi, à défaut de s'entendre politiquement, les BRICS s'accordent sur la possibilité d'une alternative à l'Occident, car avec cet élargissement, ils représentent près de 37% du PIB mondial. Une opportunité d'envergure pour l'Égypte, qui fait face à une pénurie de dollars et serait soulagée de pouvoir emporter du blé et d'autres produits des BRICS+, dans une autre monnaie que le dollar. Leur attractivité est telle que l'Algérie, candidate déçue à l'intégration, a tout de même souhaité financer la nouvelle banque de développement des BRICS+, à hauteur de 1,5 milliard de dollars. Car pour le président Tebboune, la banque des BRICS est considérée comme la nouvelle banque de développement équivalente à la Banque mondiale.
Weli Diallo, Kais Saied est officiellement engagé dans un deuxième mandat. 2 semaines après une victoire écrasante à l'élection présidentielle tunisienne, remportée selon les résultats officiels avec plus de 90% des voix, le président a prêté serment hier devant les parlementaires. Seuls 2 candidats avaient été autorisés à se présenter contre lui, dont 1 avait été arrêté le jour même de l'officialisation de sa candidature pour faux parrainage supposé. Le président tunisien semble plus que jamais seul aux manettes. Et il n'a pas manqué dans son discours de le faire savoir à ses éventuels opposants. On écoute un extrait de sa prise de parole.
Il n'y a pas de place pour les traîtres, ni pour les collaborateurs. Comme il n'y a pas de place non plus sur notre terre pour ceux qui se jettent dans les bras de la colonisation. Les défis qui attendent la Tunisie sont nombreux. Je ne peux pas tous les citer ici. Mais il faut les relever pour écrire une histoire nouvelle de la Tunisie. Notre objectif est de donner vie à un pays dans lequel chaque Tunisien et chaque Tunisienne puisse vivre en toute liberté et dignité. Certains ont des comptes à rendre et il n'y aura aucun retour en arrière à ce sujet. Nous ne renoncerons à aucun centime dérobé au peuple tunisien. De cette tribune et en ce jour particulier, je veux dire qu'il n'y a pas de place dans notre cher pays pour quiconque n'œuvre pas à la réalisation des espoirs de notre peuple.
Le président tunisien Kais Saied, des propos recueillis par Amira Souilem à Tunis. Plusieurs milliers de Touaregs maliens ont été expulsés par l'Algérie. De l'autre côté de la frontière, ils avaient trouvé refuge près de Tinzaouten, côté algérien, pour fuir la guerre et les violences. Les expulsés étaient arrivés récemment, car d'autres réfugiés plus anciens sont encore tolérés par les autorités algériennes. Mais les expulsions mises en œuvre hier concernent un site précis, soupçonné d'abriter divers trafics. David Bachet.
Ils avaient reçu dimanche un ultimatum de la part des forces algériennes. S'ils ne partaient pas, leurs affaires seraient incendiées. Selon plusieurs sources locales, sécuritaires, civiles et humanitaires, ce sont des familles réfugiées à l'est de la partie algérienne de la ville de Tinzaouaten qui ont dû précipitamment franchir hier l'oued, les séparant du territoire malien. À pied, en plein désert, avec femmes et enfants, trimballant tant bien que mal vêtements et couvertures. Des bagarres avaient eu lieu sur un site que les autorités algériennes soupçonnaient abriter divers trafics, d'armes notamment. Il ne s'agit donc pas d'une expulsion généralisée, mais d'une mesure ciblée, même si c'est la totalité des familles installées sur ce site qui en font les frais. Des Touaregs d'Aoussac, essentiellement, qui avaient fui la sanglante offensive déclenchée en mars 2022 par l'État islamique dans la région de Ménaka. Une source humanitaire note que des dizaines de milliers de Touaregs du Mali sont toujours présents en Algérie, accueillis ou plutôt tolérés, puisqu'ils ne disposent pas du statut de réfugiés et ne peuvent pas déposer de demande d'asile. Les autorités algériennes tentent d'éviter les regroupements et aucun camp de réfugiés n'a été ouvert dans le pays pour les Maliens venus y chercher protection.
David Bachet, en Côte d'Ivoire, les différends au sein du Front populaire ivoirien se régleront en partie devant la justice ce mardi. Le président du FPI, Pascal Affine-Guessant, doit répondre à une assignation devant le tribunal de première instance d'Abidjan. En cause, la plainte déposée par Pierre Dagbo-Godet, lui-même cadre du FPI, qui demande l'annulation ou la suspension du congrès du parti prévu les 8 et 9 novembre prochains. Il conteste notamment la rupture du partenariat du FPI avec le RHDP, entériné au cours d'une réunion du comité central en question en septembre. Et depuis, plusieurs militants du FPI ont ouvertement remis en question la légitimité de Pascal Affine-Guessant dans les médias. Le FPI a en réponse suspendu dimanche Pierre Dagbo-Godet, assurant que sa démarche n'engageait que sa personne. La Guinée, avec une question récurrente, le général Mamadi Doumbouya sera-t-il finalement candidat à la présidentielle? De plus en plus de mobilisations et de mouvements de soutien au président de transition apparaissent à travers le pays et ces actions sont surtout portées par des membres du gouvernement ou de l'État guinéen, comme le ministre des Affaires étrangères. C'était il y a quelques semaines sur notre antenne. Le général Doumbouya, arrivé au pouvoir par un coup d'État il y a 3 ans, s'est pourtant engagé à ne participer à aucune élection à venir, comme le stipule l'article 46 de la charte de transition. Pour l'instant, il reste silencieux sur ses intentions alors que la durée de la transition se prolonge. Sidi Yansané.
Après 3 mois sans conseil des ministres, ce n'est que vendredi dernier que le gouvernement s'est de nouveau réuni autour du président Mamadi Doumbouya. Le référendum constitutionnel promis avant la fin de l'année n'a pas été évoqué alors que ni le recensement de la population ni le fichier électoral ne sont prêts. Pourtant, les actions publiques en faveur de la junte du CNRD se multiplient dans les préfectures. Dernière en date, une marche de 5 km et un tournoi de foot à la gloire du chef de l'État à Forikaria ce week-end en présence de plusieurs ministres. Ces 30 derniers jours, un autre tournoi s'est déroulé à Labé. À Zirikoré, le maire par intérim a créé un mouvement de soutien au président et à Cancan, les élèves ont été contraints de cesser les cours pour assister au lancement d'une alliance des femmes pour la renaissance sous Doumbouya. Si ce dernier n'a rien annoncé, son porte-parole et général Camara Amara a déclaré que le putschiste avait le droit de candidater à la fonction suprême. Au gouvernement, le porte-parole Ousmane Gawal Diallo a même affirmé dans le journal Le Monde que sa candidature, je cite, est une évidence et que les autres candidats ne pourront jamais être majoritaires.
Sidi Yansané, au Burkina Faso, c'était hier lundi la journée nationale de la liberté de la presse, des médias en grande difficulté ces dernières années au pays de Norbert Zongo, comme en témoigne l'indice de la liberté de la presse publié à cette occasion. Selon cette étude publiée hier, le pays a obtenu la note de 1,96 sur 4, une baisse de 0,25 par rapport à la moyenne de 2022. L'étude concerne la période du 1er mars 2023 au 31 mars 2024. Moussa Sawadogo est journaliste et rédacteur du rapport.
C'est la première fois que la note du Burkina passe en dessous de la moyenne. Cela est dû à la situation sécuritaire qui fait que les terroristes d'un côté harcèlent les journalistes. Le pouvoir demande aux journalistes de les accompagner et refuse la critique. Certains citoyens s'en prennent aux journalistes quand ils ne sont pas d'accord avec le contenu. Il y a des directeurs de publication ou des responsables de médias qui sont des aventuriers, qui créent les médias, qui prennent des journalistes qui ne payent pas, qui sous-payent, poussant les gens à vivre dans des situations de précarité où ils se laissent facilement corrompre. On a aussi certains de nos compatriotes qui se croient beaucoup plus patriotes que d'autres et qui se permettent de tenir des discours haineux, violent vis-à-vis des journalistes, ce qui met les journalistes dans une situation de peur. Beaucoup de journalistes aujourd'hui ont peur de travailler franchement parce que voilà, on a eu des menaces de mort et tout ça. Et donc il y a beaucoup d'éléments comme ça qui contribuent à plomber un peu la liberté de presse. Mais l'élément fondamental, c'est la situation de la sécurité.
Moussa Sawadogo, journaliste et rédacteur du rapport sur la liberté de la presse au Burkina Faso.
Ouagadougou 94 FM.
Et on reste au Faso pour conclure ce journal. Sachez que l'ONG Médecins Sans Frontières ferme provisoirement l'une de ses missions à Djibo, une ville du nord du pays. MSF invoque une multiplication d'incidents sécuritaires dans cette ville, cernée par les groupes djihadistes. Dans son communiqué publié hier, MSF affirme notamment que l'un de ses membres est décédé en septembre à Djibo, dans des circonstances encore non élucidées. RFI, il est 9h41 ici à Paris, 2h de moins en temps universel. Et vous retrouvez dans quelques instants Gaëtan Plénet pour la suite et la fin des RFI Matin.
Et c'était le journal de Victor Moria. Dans un instant, on sera en Côte d'Ivoire, car hier on vous parlait de l'addiction.